quand même. Hein. Alors bonsoir, essayez de ne pas se tromper, nous aussi, hein. Bonjour et bonsoir. C'est une joie d'être parmi vous, je regardais dans le programme, ça fait le mois prochain, ça fera une année que je suis venu. Le confinement est passé par là, on devait se voir avant, c'était prévu, mais voilà, les choses ont été autrement. Puisque je vois que cette tradition de commencer avec des questions, j'en ai une aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? Vous les protestants, ah, vous connaissez bien la Bible. On vous l'a déjà dit ?
C'est un compliment, si vous me dites ça.
C'est un compliment. Mais la question c'est, est-ce vrai ? Dernièrement, j'étais à un service funéraire pour une famille. Bernard Russo n'était pas là, il était en congé, je l'ai remplacé. Et il fallait absolument que la famille trouve un pasteur, parce que c'était grave s'il n'y avait pas de pasteur pour la cérémonie, ce que je pouvais comprendre d'une certaine manière. Et quand j'ai parlé avec cette famille, ils m'ont sorti que les enfants avaient été à l'enseignement biblique, au temple. Et les enfants, c'était les enfants, grands adultes, qui étaient en train de me parler. Et le papa avait autrefois, avec la maman, était aussi au temple, pas très longtemps, mais ils avaient été quand même. Et je m'attendais à des protestants qui, voilà, veulent vraiment proclamer quelque chose, etc. Au fur et à mesure que je faisais les entretiens, j'étais un petit peu... Je déchantais, et finalement j'ai compris qu'il n'y avait que le nom de protestant qui restait, et que personne n'était pratiquant. Et je me pose la question, qu'est-ce que ça veut dire être... protestant, religieux, croyant, non pratiquant. C'est quand même une question qui me turlupine. Moi, je pense que ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, ça ne change rien dans les vies. Et malheureusement, beaucoup de gens se disent ainsi, se définissent ainsi. Croyant, mais non pratiquant. Comme disciples du Christ, nous sommes appelés à être non des pratiquants religieux ou des religieux pratiquants, mais des pratiquants de la parole de Dieu. Nous voulons être réellement ces protestants qui connaissent la Bible. Le mot protestant n'est pas tellement important. Nous voulons être des disciples de Jésus qui connaissent la Bible. Dans d'autres religions, on nous appelle le peuple du livre. Vous vous rendez compte ? Mais voilà, suffit-il d'avoir une Bible pour être peuple du livre ? Suffit-il de l'ouvrir occasionnellement pour être peuple du livre ? Suffit-il de connaître quelques passages préférés par cœur pour être peuple du livre ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Des gens sont battus, sont morts pour que nous ayons ce livre entre les mains. Et je fais référence à un mouvement de la Réforme qui a marqué le XVIe siècle. Mais d'autres avant, dans notre région, dans le Luberon, les Vaudois ont laissé une trace. XIIe siècle, des gens comme Pierre Valdo avaient à cœur que les gens viennent à l'Évangile, retournent à l'Évangile, et que la Bible soit traduite dans leur langue. Alors, il n'y avait pas d'imprimerie à cette époque, c'était recopié. En tout cas, pour la Réforme, c'était retourner sur la base stricte de la parole de Dieu, l'essentiel de la doctrine chrétienne, à savoir l'écriture seule, sola scriptura, la foi seule, sola fide, la grâce seule, sola gratia, Christ seul, solus Christus, et la gloire de Dieu seule, soli deo gloria. La dernière fois que je suis venu, j'ai parlé sola gratia. Et c'était avec deux personnes qui montaient au temple, et Jésus avait parlé là-dessus. Et en fait, ce que Jésus voulait dire, c'est que la grâce, elle n'est pas pour ceux qui se croient justes. La grâce ne se reçoit que lorsqu'on comprend qu'on en a besoin, qu'on est pécheur. Elle n'est pas justement pour les gens qui se croient justes. Aujourd'hui, nous voulons nous laisser interpeller par une autre affirmation, un autre slogan de la Réforme, l'écriture seule. Et c'est le titre de mon message, Sola Scriptura. Et nous voulons lire ensemble un texte dans l'Ancien Testament. Alors je sais que l'Ancien Testament, parfois, on a du mal. Et en plus, dans le Deutéronome, alors là, j'espère ne pas vous achever.
C'est mieux que Lévitique.
C'est mieux que Lévitique. D'accord. Deutéronome, chapitre 4, et on lira les 8 premiers versets. Alors je lirai dans la version Sommer. Là, vous avez différentes versions. J'ai vu que vous aviez la seconde 21 aussi. En tout cas, suivons ensemble. Je lis. « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les lois que je t'enseigne. Respecte-les afin de vivre et d'entrer en possession du pays que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te donne. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n'en retrancherez rien. Vous obéirez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous transmets. Vous avez vu de vos yeux ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à cause du Dieu Baal de Péor. Il a exterminé tous ceux d'entre vous qui s'étaient adonnés au culte de cette divinité. Mais vous, qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront : il n'y a qu'un seul peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Où est en effet le peuple même parmi les plus grands qui a des dieux aussi proches de lui que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quel est le grand peuple qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Jusqu'ici notre lecture et nous voulons prier. Merci Père pour ces moments ensemble devant toi. Merci parce que tu veux nous encourager à ouvrir ce livre, ton livre, et appuiser ce que tu nous dis. Nous avons besoin que tu visites nos cœurs, que tu nous éclaires. Merci aussi que tu visites les enfants à côté et que tu veux leur faire du bien. Et puis nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, visite aussi ton peuple, là où il est. Merci de nous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Alors c'est un beau slogan, « Sola Scriptura ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Affirmer que l'Écriture seule est seule, c'est premièrement se mettre à l'écoute de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 1 et 2. Et puis deuxièmement, c'est suivre les directives de Dieu, les versets 3 et 4. Et enfin, c'est donner envie aux autres, les versets 5 et 8. Alors nous voulons voir le premier point, se mettre à l'écoute de Dieu. Quand vous regardez ce texte, la première chose que Moïse demande au peuple, c'est de se mettre en mode écoute. Écoute. Ce que Dieu réclame, ce que Moïse, pardon, réclame du peuple, c'est une attention toute particulière. C'est une écoute de qualité. Il ne s'agit pas ici d'une écoute passive, mais d'une écoute active. Le peuple doit bien écouter, assimiler ce qui est dit pour pratiquer ensuite ce qui est demandé, exigé par Dieu. Si vous lisez au chapitre 1, vous avez un peu le contexte de tout ce que Moïse va dire. C'est un peu le testament de Moïse. Alors je sais qu'on a appelé ce livre Deutéronome, qui veut dire deuxième loi. Mais en fait, ce livre nous rappelle au fond, c'est un peu le testament de Moïse pour la génération qui va entrer en terre promise. Nous sommes au bout des 40 ans, passés dans le désert. Le peuple est tout prêt d'entrer dans cette terre promise. Et Moïse s'adresse donc à une nouvelle génération d'Israélites, ceux qui sont nés dans le désert. Leurs parents sont morts parce qu'ils ont désobéi. Et c'est donc à la nouvelle génération de prendre possession de la terre promise. Mais cette multitude, cette nouvelle génération n'a pas fait l'expérience des miracles de la mer Rouge, ni entendu la loi donnée sur le mont Sinaï. Ils ont donc tout à apprendre et à pratiquer. Moïse sait aussi que le pays promis, le pays de Canaan, c'est un pays qui est rempli d'idolâtrie. Il sait que les dangers, les tentations ne vont pas manquer. Dieu lui révélera même que le peuple se détournera de lui. Et donc, pour Moïse, il est crucial que le peuple connaisse les clauses de l'alliance conclue avec Dieu pour ne pas imiter leurs ancêtres, leurs parents, leurs pères. Le peuple doit aussi apprendre à observer les lois données par Dieu pour être victorieux dans sa conquête du pays promis. Et c'est le but donc de ce livre, de rappeler ce que Dieu a fait, pour ne pas oublier, pour souligner la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu à l'égard de son peuple. Je pense que s'il y a quelque chose pour nous aujourd'hui qui est difficile, c'est l'écoute. On ne sait pas écouter. Vous parlez avec quelqu'un, et puis tout à coup il vous répond, mais à côté. En fait, il n'a pas été au bout de ce que vous disiez, il a déjà pensé à la réponse qu'il allait vous donner. Résultat, ça fait des conversations qui sont des fois un peu bizarres. On ne sait pas écouter. Et nous, en tant que responsables d'église, c'est pareil. On peut écouter les gens, mais se dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui répondre? Et du coup, on n'écoute pas vraiment. Et je me demande si parfois, on ne lit pas la Bible en pensant à autre chose. Je lis un passage qui me fait penser à un autre passage, qui me fait penser encore à autre chose, et une situation que j'ai vécue. Et du coup, je me suis perdu dans ma pensée. Et je ne suis plus en train d'écouter ce que Dieu veut me dire. Pourtant, par l'Écriture seule, nous apprenons vraiment à écouter Dieu. C'est peut-être bon de faire silence devant Dieu. C'est peut-être bon de nous isoler dans un coin pour être tranquille, pour lire cette parole. Nous devons nous mettre au diapason de Dieu. Vous savez que le diapason en musique, c'est ce qui permet d'avoir le « la ». Et c'est ce qui permet de régler les instruments. Bon, on a des accordeurs, on a des moyens modernes aujourd'hui, mais quand même, on a besoin d'avoir une note commune. Ça permet donc aux musiciens d'accorder leurs instruments de musique. Imaginez un orchestre où chacun a réglé son instrument chez lui. Mais en arrivant au moment où il joue dans l'orchestre, il y a les variations de température, il y a tout un tas de choses, et puis on y va comme ça. Ça donnerait une drôle de cacophonie. Ça serait pas très harmonieux et pas très agréable pour les oreilles. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Comment ? Souvent, on pense que écouter Dieu, c'est lui parler. Mais justement, non, on parle. Et parfois, on a l'impression que parler avec Dieu, ben voilà, j'ai pu écouter ce que Dieu disait. En fait, non, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais Dieu veut me parler. Je n'ai pas besoin d'aller très loin, sa parole. Et là, Dieu veut me parler par cette parole. J'ai besoin de me pencher sur cette parole chaque jour. J'ai besoin de réfléchir, de méditer, d'étudier avec soin, avec sérieux, ce qui est dit, pour comprendre ce que Dieu veut me dire. Et c'est dans cette écoute de qualité, c'est dans cette intimité avec le Père, notre Dieu, que nous pouvons comprendre ce que Dieu veut nous dire. Dieu nous révèle sa pensée dans sa parole, par sa parole. Le Saint-Esprit éclaire cette parole. Et il permet que nous puissions la comprendre. C'est pour ça que nous avons besoin de nous arrêter. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire la Bible entre deux rendez-vous, entre deux... Ok, vous êtes en salle d'attente, vous avez un rendez-vous qui était à telle heure et puis il y a du retard. Ok, vous avez un téléphone, vous pouvez lire la Bible, c'est bien. Mais ce n'est pas votre culte personnel. Ça vous permet de continuer votre lecture, d'y réfléchir, ou de réfléchir à ce que vous avez écrit. Mais... c'est pas là qu'on peut vraiment réfléchir tranquillement. Il y a du bruit autour et c'est pas optimal. Il y a quelqu'un qui a écrit et qui a dit ceci: ne lis pas la Bible pour devenir plus savant, mais pour devenir meilleur. La Bible ne dit rien à qui ne se soucie pas de la pratiquer. Et qui refuse d'agir renonce à comprendre. C'est fort, hein? Mais je suis d'accord. Et c'est vrai. Nous avons besoin de nous poser de réfléchir. Dans le même sens, Jean Calvin, donc un des réformateurs, dira que la parole de Dieu n'est point pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour réformer nos vies. Dieu veut nous transformer. Il y a un mot que j'essaye de rayer de mon vocabulaire, et j'essaie de le transmettre aussi à l'Église, c'est le mot « je vais m'améliorer ». Parce que « je vais m'améliorer », c'est moi qui fais le travail. Je ne peux pas m'améliorer. Mais Dieu veut me transformer. C'est différent. Ça implique cette transformation de mettre en pratique ce que Dieu nous révèle. Ça implique aussi de demander pardon quand Dieu nous montre des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Ça implique de nous conformer à ce que Dieu dit. Et ça va nous éviter deux dangers qui sont soulignés ici. Celui d'ajouter des choses à la parole de Dieu. Les pharisiens du temps de Jésus avaient rajouté plein de choses. Et ils avaient poussé les commandements de Dieu jusqu'à donner la dîme des épices et des herbes du jardin, des herbes aromatiques, des plantes aromatiques. Ce que Dieu n'avait pas demandé. Mais il passait à côté de l'essentiel. Et l'autre danger, c'est celui de retrancher une partie de la parole. C'est d'adapter la parole aux caprices ou aux faiblesses de la nature humaine. Et aujourd'hui, c'est facile d'arranger un peu le message de l'Évangile parce que des fois, il est trop raide. Il y a un mot qu'on ne supporte plus, c'est parler de la colère de Dieu. Ah, Jean-Luc, il va fort. Et pourtant, plein de passages dans la Bible parlent de la colère de Dieu. Jésus dit que celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu est déjà là. Et c'est ressorti avec Madame Coronavirus. Les gens me disent, est-ce que tu crois que Dieu est en colère avec nous, avec ça? C'est pour ça qu'il nous envoie le Covid ou la Covid. Je dis, mais la colère de Dieu est déjà là. Elle est suspendue. Dieu nous fait grâce. Dieu veut nous offrir sa grâce. Mais si Dieu voulait réellement faire tomber sa colère sur nous, on ne serait plus là. On ne se poserait même plus la question. Pendant le temps de son épreuve dans le désert, Jésus va citer le livre du Deutéronome. Et il va le citer à trois reprises. Nous pouvons lire ça dans Matthieu, chapitre 4, texte parallèle aussi dans Luc 4. Mais en faisant cela, Jésus nous a démontré la nécessité de, comme le dit le psaume 119, de garder la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre lui. Jésus a cité la parole. Nous pouvons, nous aussi, nous appuyer sur cette parole. Jésus aurait pu clouer le bec au diable, pardonnez-moi l'expression, de plein de façons. Mais nous n'aurions jamais pu lutter, nous aussi, en faisant ce que Jésus aurait fait de surnaturel. Jésus n'a pas fait de miracle surnaturel pour faire taire le diable. Il a répondu, il est écrit. Et c'est là son argumentation. Et il cite le Deutéronome à trois reprises. De cette écoute que nous avons besoin, de notre obéissance à la parole de Dieu, dépend notre bonheur. C'est ce qui ressort également de ce passage, mais aussi ailleurs. Jésus lui-même dira dans Luc, chapitre 11, verset 28, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Point. Non. Et il ajoute, « Et qui y obéissent. » L'obéissance ne peut pas être dissociée de l'écoute de la parole de Dieu. Ça marche ensemble. Sinon, je ne suis pas cohérent. Sinon, je deviens un religieux non pratiquant de la parole de Dieu. Ça me conduit à mon deuxième point. Suivre les directives de Dieu, versets 3 et 4. Vivre la parole de Dieu, le livre de Dieu, c'est obéir, on l'a dit, aux directives de Dieu. C'est précisément ce que la génération précédente, l'Israélite, n'a pas su faire. Ils ont abandonné Dieu. Ils se sont livrés à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle. Et Moïse rappelle cet épisode douloureux pour Israël, mais pour les générations aussi à venir. C'est important de s'en rappeler. Ces conséquences, cette désobéissance a eu de graves conséquences. Et des gens sont morts à cause de cela. La nouvelle génération, elle est exhortée à s'attacher fidèlement à son Dieu pour ne pas tomber dans les mêmes travers que leurs parents. Et Moïse en sait quelque chose. Parce que si Moïse rappelle tout ça, un peu comme son testament, c'est que lui, il ne sera pas du voyage pour traverser le Jourdain. Lui aussi, à un moment donné, Dieu punit sa désobéissance avec Aaron. Une seule désobéissance lui a coûté l'entrée en terre promise. Il est donc bien placé pour exhorter le peuple à obéir aux directives de son Dieu. Son but, c'est donc de l'encourager à pratiquer la parole de Dieu, à la vivre réellement pour être heureux. Pour être heureux. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul rappelle que nous devons tirer instruction de ces événements tragiques. Voici ce qu'il écrit. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Et il fait référence à cet épisode-là, souligné ici par Moïse. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été. Selon ce que rapporte l'Écriture, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent tous pour se divertir. Ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Vous vous rendez compte, l'apôtre Paul écrit ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 6, puis 8, puis 11. Alors que nous, aujourd'hui, nous sommes bien plus tard. Et on a l'impression que c'est d'actualité cette parole encore. Parce qu'au fond, nous sommes comme ce peuple d'Israël. Nous avons besoin de tenir compte de ce que Dieu dit, d'obéir à cette parole, de la saisir, de la comprendre, de nous placer en mode écoute. Nous vivons dans un monde qui rejette Dieu. Un monde qui, paradoxalement, a soif de spiritualité. Cette quête de spiritualité pousse les gens à se tourner vers toutes sortes de courants pseudo-religieux, évidemment les sectes foisonnent, et l'occultisme également. Je regardais sur une émission qui est parue en 2018, France 3, c'était en Hauts-de-France, et voici ce qui était dit, le marché de la voyance ne connaît pas la crise. Les chiffres surprennent, un Français sur trois consulte un voyant chaque année. Et le chiffre d'affaires généré est estimé à 3 milliards d'euros par an. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les gens qui cherchent désespérément des solutions. La peur du virus a déclenché beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions comme ça, de peur. L'immoralité n'est pas en reste. Elle se propage toujours plus. Elle marche de pair avec le monde des ténèbres. C'est pas étonnant. Alors comment faire? Comment faire pour marcher à contre-courant? Comment faire pour aller dans une autre direction alors que tout le monde va dans une grande direction? C'est pas facile. Lutter, remonter le courant, c'est pas simple. Comment faire pour ne pas succomber aux tentations de ce monde? L'apôtre Paul nous donne encore des réponses. Voici donc ce que je vous dis, je le cite. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Et puis il continue à développer. Un peu plus loin, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est. Et ce qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Éphésiens, chapitre 4, les versets 17 à 24. En suivant les directives de Dieu, nous sommes gardés. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est sûre, elle est fiable. Je disais ce matin à l'église, comment s'y repérer dans tout un tas d'informations qui sont toutes contradictoires les unes que les autres. Au niveau de la médecine, au niveau de ce virus, les uns disent ça, les autres disent ça. Et c'est tous du corps médical, des spécialistes. Et moi, personne lambda, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que je dois faire? La parole de Dieu, elle est fiable, elle est sûre. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne dit pas un coup oui, un coup non. Elle est vraie. Elle est sûre, cette parole. Ta parole est la vérité. Nous savons que cette parole s'est incarnée. Cette parole, Jésus. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Pas une des vérités, la vérité. La vie. Si nous suivons Jésus, alors nous sommes au bon chemin. En lisant le livre du Deutéronome, ce que je vous encourage à faire, même si c'est l'Ancien Testament, même si parfois c'est un peu difficile, bien nous allons retrouver des thèmes du Nouveau Testament. Nous allons retrouver ce thème, par exemple, du paradoxe qui existe entre la loi mosaïque qui est bonne et en même temps cette impossibilité de lui obéir. Nous ne sommes plus sous la loi, mais ça ne veut pas dire que la loi a disparu. La loi morale de Dieu est là. Il y a cette tension en nous et parfois on sort des trucs comme « Oh, la loi c'est passé, c'est fini, on n'en a plus besoin, on est sous la grâce. » Oui, mais quelle est la loi de Dieu? Relisez le sermon sur la montagne, vous allez voir ce que Jésus dit. Et puis Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Oui, nous étions incapables de l'accomplir. Mais Jésus est venu. Son sacrifice parfait sur la croix l'a rendu maintenant possible. Nous pouvons accomplir cette loi morale de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. Il ne s'agit plus d'obéir aux 10 commandements pour être sauvés. Nous sommes sauvés. Mais nous voulons que cette loi morale maintenant prenne vie en nous. Nous voulons être des pratiquants de la parole de Dieu. Et pas seulement des religieux. Comme le dit l'apôtre Paul, il dit « Nous vivons d'une manière nouvelle. J'ai été crucifié avec Christ. » Il est fort. Hein? « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Est-ce que Christ vit en moi? Est-ce que nous vivons comme l'apôtre Paul le dit? Est-ce que nous avons crucifié notre chair sur la croix? Galates 2, 19, 20. Cette vie nouvelle nous permet de vivre dans un monde à contre-courant parce que Jésus est là pour nous y aider. Alors je ne voudrais pas mettre un fardeau sur vos épaules. Il ne s'agit pas de faire, je dois faire encore plus ça, alors peut-être qu'il faut se passer plus de temps dans la lecture de la parole. Certainement on doit passer plus de temps. Mais ce n'est pas dans le faire, c'est dans l'être. J'ai besoin d'être simplement dans la présence de mon Père et de me laisser visiter, transformer par lui. Et quand il met en lumière des points, quand le Saint-Esprit éclaire tel ou tel domaine, alors je dois les corriger, je dois les confesser, les abandonner, je dois m'en débarrasser. Sinon, ça ne marchera pas. Le Saint-Esprit nous offre son aide pour avancer, pour rester sur les bons rails. Et ça me conduit à mon dernier point, donner envie aux autres. Versets 5 à 8. On l'a vu au point 1, l'un des buts de la loi consistait à donner au peuple une vie pleine, entière, abondante, dans la mesure où l'obéissance est là, dans la mesure où le peuple se conforme à cette parole que Dieu donne. Mais dans les versets 5 à 8, nous découvrons qu'il y a aussi une question de témoignage. Donner envie aux autres nations. Ce qui doit distinguer Israël des autres nations, ce n'est pas sa puissance militaire, ce n'est pas ses ressources naturelles, ce n'est pas ses richesses matérielles, mais sa relation étroite avec le Dieu vivant. l'obéissance scrupuleuse à toute sa parole, la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce qui donnera à Israël un statut unique, un statut privilégié parmi tous les peuples de la terre. À certaines périodes de son histoire, oui, Israël marchera en conformité avec cette parole. Je pense à un moment donné avec Salomon. Salomon a reçu de la part de Dieu une sagesse extraordinaire. Il était dans l'écoute de Dieu. Et il marchait avec Dieu. Mais à la fin de sa vie, ça a sérieusement dévié. Et malheureusement, ça provoquera une division du peuple. Il est question de témoignage. Il est question de la gloire de Dieu. Ce n'est pas tant qu'on nous regarde pour dire « Ah, oh, t'as vu comme ils sont bien, ces chrétiens. » Non. Il est question de la gloire de Dieu. Nous portons le nom de chrétiens. Quand nous faisons quelque chose de mal, il y a des conséquences. Souvent, les gens vont s'en servir pour dire « Ah, c'est ça les chrétiens. » Et Dieu derrière, on salit le témoignage. C'est triste. Alors la question que je me pose et que je vous pose, c'est comment est-ce que les gens nous perçoivent? Comment est-ce que les gens vous perçoivent? Comment est-ce que les gens vous connaissent? Sommes-nous connus pour être des gens du livre? Sommes-nous connus pour être des gens qui connaissent la parole, mais qui la vivent, qui la pratiquent? Il ne s'agit pas de décocher des flèches, des versets bibliques, pour reprendre lui, pour reprendre elle, pour... Non, la parole, elle est... c'est autrement que nous voulons la vivre. Cette parole détermine vraiment nos choix quotidiens. Et la question que je me pose, c'est est-ce que nous avons faim et soif de lire cette parole? Toutes ces questions nous concernent personnellement et toutes ces questions demandent qu'on y réfléchisse personnellement, honnêtement devant Dieu. Ça m'est arrivé de lire la Bible sans réel désir de lire la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, c'est pénible. Et puis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. Et l'élan revient. Et tout à coup, les mots s'éclairent. La pensée devient un peu plus claire. La joie de vivre l'Évangile. C'est important, ce passage en tout cas souligne l'importance de vivre la parole de Dieu au quotidien. Elle est vitale à nos vies. On peut se passer de plein de choses, mais pas de la parole de Dieu. On n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament, on le sait. Et nous sommes toujours responsables de nous soumettre à la volonté de Dieu dans nos vies. La simple obéissance à la parole de Dieu engendre la bénédiction. De même, la désobéissance engendre des conséquences. Tous les réformateurs du XVIe siècle, tout comme les réformateurs du XVIe siècle, mais nous croyons, nous aussi, que la Bible est la seule autorité dans nos vies, parce qu'elle est réellement la parole de Dieu. Elle a le pouvoir, non pas de nous améliorer, mais de nous transformer, de nous changer. Et moi, personnellement, j'aspire à être transformé encore. Pas amélioré. J'aimerais vraiment être transformé encore, davantage. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est une bénédiction que d'avoir le livre de Dieu en notre possession. Je ne sais pas si on réalise, mais tous ces réformateurs qui ont donné leur vie pour que nous ayons ce livre dans les mains, pour que ça nous parvienne dans la langue du peuple. Et aujourd'hui, nous avons la Bible sur plein de supports. Le téléphone, l'iPad, ordinateur, version papier, tout ce qu'on veut, même audio. Ce livre nous révèle le plus grand de tous les trésors, Jésus. Alors la question, c'est sommes-nous passionnés? Sommes-nous passionnés par ce livre de Dieu au point que notre cœur déborde de joie, de reconnaissance? Il y a comme un manque si on n'a pas lu cette parole. Non pas parce qu'il faut la lire, mais parce que ma relation avec Dieu est vitale, importante. Dans un de ses livres, Luc Dumont a écrit quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait du bien, et je vous le livre. La parole de Dieu est un livre de passionnés. Un Dieu passionné, amoureux de sa création, qui va faire le don illogique de son Fils unique pour le rachat d'une humanité perdue, qu'il aime tellement. Des hommes et des femmes passionnés qui vont dédier et sacrifier leur vie entière pour la cause de l'Évangile. Puis il ajoute, « Je n'arrive toujours pas à comprendre que des gens disent connaître l'Évangile merveilleux de la grâce et qu'ils réussissent à le vivre sans passion. » Demandons à Dieu cette passion. Soyons passionnés. Et en même temps, d'autres verront notre passion. Je me souviens de ce jeune homme qui, fougueux, voulait partager l'évangile, rayonnant, et rencontre une dame. Et cette dame lui court après, et cette dame lui dit « Monsieur, monsieur, monsieur !» Et le jeune homme répond « Oui. » Et la dame dit « Je vous ai vu vous garer, mais votre visage est différent des autres. Qu'est-ce qui vous anime ?» Voilà, on veut être animé d'un désir de plaire à notre Dieu. Moïse ne savait même pas que la peau de son visage, elle rayonnait quand il était dans la présence de Dieu. Et le peuple a constaté. Nous voulons briller pour Jésus. Alors j'aimerais conclure. La Bible, c'est le livre le plus extraordinaire jamais écrit. Beaucoup ne l'ont pas. D'autres sont persécutés pour l'avoir. Parce qu'ils détiennent un exemplaire de ce livre. Selon Porte Ouverte, l'ONG Porte Ouverte, les Bibles sont vitales pour les chrétiens de l'ombre. Et beaucoup aspirent à en posséder une. Mais il n'y a pas pour tous. Certains la recopient pour essayer d'avoir un petit bout de l'écriture pour pouvoir se nourrir avec. En Occident, je l'ai dit, nous avons plusieurs exemplaires de Bible. Et si on ne la trouve pas, si on ne l'a pas, on peut s'en procurer une pour moins de 2 euros. 1,90 €. Mais la question c'est, est-ce que nous la lisons pour autant? Est-ce qu'on n'est pas aussi redevable de ce que Dieu nous a donné? Et un jour, nous devrons rendre des comptes à ce Dieu qui nous a donné cette parole. Alors que Dieu nous aide à vivre son livre avec passion, que nous soyons zélés, assidus dans la lecture de la parole de Dieu, prompts à lui obéir. Que nous devenions aussi des pratiquants de sa parole pour sa gloire. Et que cela ait un impact dans nos vies, premièrement, dans l'Église, mais aussi dans la vie de nos contemporains, là où Dieu nous place. Parce que Dieu nous a placés dans un endroit où personne d'autre n'est, à part toi. La Bible est la vérité, le livre de Dieu qui conduit à Dieu. Amen. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait tant de bien. Pardon pour toutes les fois où j'ai oublié cette parole, toutes les fois où je l'ai lue à contre-cœur, toutes les fois où je l'ai trouvée un peu rébarbative. Seigneur, c'est ta parole. J'ai besoin d'être émerveillé. Nous avons besoin d'être émerveillés par ce livre. Touche nos cœurs. Rends-nous passionnés. Passionnés par toi, Jésus. Tu nous as tout donné pour que nous ayons la vie. Donne-nous de la saveur pour que nous ayons des vies qui aient du goût. Donne-nous de pouvoir briller pour toi, pour que la gloire te revienne, pour que les gens voient que nous t'aimons, que nous t'appartenons et que tu es celui qui fait la différence. Seigneur, encourage chacun de nous dans notre quotidien. Tu sais ce que chacun traverse. Parle à nos cœurs. Aide-nous à pouvoir t'écouter, s'il te plaît. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Et nous croyons que par le Saint-Esprit, tu vas agir dans nos vies pour ta gloire. Amen.